Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloum.
Depuis la nuit des temps, l'homme, comme la femme, médecine, recherche des solutions pour guérir ou prodiguer des soins en vue d'une meilleure santé physique, psychique ou mentale. Des médecines traditionnelles ancestrales, des dons des guérisseurs ou guérisseuses qu'on allait chercher dans les villages d'autrefois, nous sommes passés à la médecine plus scientifique, qui a permis de révolutionner la santé. Et pourtant, les médecines dites alternatives réapparaissent de plus en plus pour venir prendre soin des traumatismes ou des pathologies psychologiques ou encore des maux de l'âme. Nous sommes avec Florent Dechose, ostéopathe, acupuncteur, guérisseur, auteur de plusieurs ouvrages sur l'expérience chamanique et le jumeau né seul, et fondateur de l'Institut Arc-en-Ciel qui propose tout un programme de formation. Bonjour Florent et bienvenue au micro de cette émission radio Les Nouveaux Sauvages.
Bonjour Marie. Merci de votre invitation, je suis là pour répondre à tes questions.
Tu exerces depuis près de 30 ans dans la relation d'aide et le soin. La question de cette émission reste vaste, c'est comment révéler son guérisseur intérieur? Qu'est-ce que le chamanisme, la roue de médecine que tu enseignes, les soins esséniens ou les autres pratiques que tu partages pour se soigner ou guérir? Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ton cheminement qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant?
Mon premier démarrage, j'ai envie de dire, dans les soins, c'était le métier de kiné. Voilà, je suis diplômé en kinésithérapie. Et puis assez vite, en fait, la curiosité est allée vers l'énergie, l'acupuncture. Et enfin, de l'acupuncture, la médecine chinoise, je suis allé vers l'ostéopathie. C'était plus logique par rapport à la kiné, mais j'ai commencé par le plus difficile. Et en fait, je n'avais aucune curiosité vers le chamanisme, les soins spirituels, les soins alternatifs, en dehors de l'ostéopathie et l'acupuncture. Et en fait, c'est au décours de ma psychothérapie où j'avais beaucoup... Enfin, je suis un grand rêveur, j'ai été amené en psychothérapie à aborder mes rêves, où finalement, ma thérapeute me dit « Mais Florent, il semblerait quand même que tu aies des compétences de guérisseur. » Je dis « Écoute, je suis déjà ostéopathe, acupuncteur, c'est déjà pas mal, kiné. » Elle me dit « Non, un guérisseur spirituel. » Et là, je dis « Oh là là, c'est quoi cette embrouille ?» Et mon parcours, finalement, a commencé comme ça, en disant « Non, merci, je ne veux pas rentrer dans le guérisseur spirituel. » Ça ne faisait pas de sens pour moi à l'époque, du tout. Je veux rester dans mes pratiques, déjà, avec ce que je pratiquais déjà à l'époque. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y a quelque chose en moi qui a beaucoup pleuré pour refuser l'accès à ces endroits. Et puis finalement, ça s'est délié petit à petit. Voilà, et donc c'est un parcours qui a dû démarrer, je pense, dans les années 96, 97, un petit peu avant 2000, quoi. Donc ça fait un petit moment que je progresse par là, que je cherche, que j'expérimente. Beaucoup de choses différentes.
Alors, comme tu dis, effectivement, donc, c'est venu à toi, en fait, alors, c'est pas un métier d'être guérisseur, mais en tout cas ce don de guérison. Mais qu'est-ce qui t'a amené donc au chamanisme, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la pratique du chamanisme que tu transmets à l'heure actuelle?
Le don de guérisseur, c'est particulier parce que dès mes études de kiné, on m'a dit « Florent, tu es magnétiseur. Tu, quand tu masses, quand tu poses tes mains, c'est pas des mains de kiné normaux, un kiné normal qui pose simplement ses mains. » Et donc, assez vite, je me suis posé la question « magnétisme ». Dans la maison, dans la famille, j'avais pas de magnétiseur sous la main, donc je me disais « Oh, c'est quoi ?» Je me sentais très illégitime. Et puis... par cette curiosité, en fait, j'ai rencontré les rencontres qu'il fallait, qui m'ont mis sur le chemin, et notamment un enseignant, Patrick Peitavi, qui m'a mis vraiment en relation avec la force de magnétisme qu'on a tous un petit peu, mais qui chez moi est un petit peu au-dessus de la moyenne, qu'on va dire. Et ça a démarré comme ça. Et le chamanisme, c'est plus compliqué parce que en fait, notre tradition chamanique européenne est perdue. s'est perdu depuis la nuit des temps. Donc il y a une histoire très compliquée. Pourtant, en Europe, ce qu'on connaît dans les recherches historiques, c'est que les soins, on a retrouvé des vestiges montrant qu'il y avait des soins entre 50 000 et 70 000 ans. Donc voilà, sur notre terre d'Europe est une terre de chamanisme. Voilà. L'aspect celte, qui est le plus contemporain connu, en fait, moi, je ne suis pas allé explorer cette piste-là dans mon parcours, parce qu'en fait, tout simplement, à l'époque, j'ai tout de suite rencontré le chamanisme amérindien. Donc, avec des Brésiliens, avec équatoriens, ensuite Canada, américain, enfin voilà, c'est plus le parcours mexicain, c'est plus le parcours amérindien qui s'est présenté à mon chemin. Et ensuite, donc on appelle ça un peu le néo-chamanisme, donc une espèce de renouveau de chamanisme. Donc, c'est tellement vaste que ça aurait besoin de passer des heures et des heures pour expliquer. En tous les cas, ce que je peux dire sur un résumé simple, c'est que ce chamanisme est très approprié quand les gens perdent le contact avec la nature, avec les animaux, avec l'intelligence du vivant, où les villes, où l'éducation, où les normes, la religion a pu être tellement normatif que les gens sont coupés d'une part de leur génie intérieur en lien avec l'âme, avec leur force spirituelle. Donc déjà, on rentre dans des gros mots, hein, force spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin voilà. Donc le chamanisme que je pratique aujourd'hui, c'est un chamanisme, je dirais, vibratoire, énergétique, en lien avec la compétence du magnétiseur, mais aussi avec ce qu'on appellerait plutôt le champ de conscience. Voilà.
Est-ce que tu peux parler justement de cette pratique du chamanisme qui permet d'aller vers ce champ de conscience dont tu parles, voilà les principes de la roue de médecine que tu enseignes, enseigné par Patricia White Buffalo. Donc nous parler de ça, est-ce que voilà, c'est tout un travail sur les directions, sur les éléments, comment se reconnecter finalement à soi et comprendre comment on fonctionne, comprendre nos travers pour mieux finalement mieux guérir, mieux se connaître et être en soins intérieurs.
Parcours, c'est un parcours où j'ai beaucoup étudié la psychologie humaine à travers la psychanalyse par exemple et puis à travers la psychopathologie. Et en fait, mon chemin, moi, c'est d'aider à sortir de la lie de la souffrance. Voilà. Donc, par exemple, dans le chamanisme, il y a différentes formes de chamanisme. L'étude des rêves est une forme de chamanisme traditionnel. Il y a d'autres formes de chamanisme. On va utiliser, par exemple, les plantes psychotropes. Moi, ce que j'ai vraiment mis de côté dans mon enseignement, dans mes transmissions, parce que pour moi, on a, avec les années d'expérience, on a nullement besoin d'aucune plante de médecine ou de psychotrope pour évoluer en conscience, pour se guérir, pour transformer la souffrance. Donc je suis plus à l'aise avec l'aspect de la souffrance de l'âme, vraiment avec les peines de l'âme. C'est-à-dire, la peine de l'âme, c'est comme si on avait une souffrance qui peut être psychologique. Voilà, on vient de perdre un ami, un parent, quelqu'un que l'on aime beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses magnifiques qui sont utilisées en thérapie, en développement personnel, pour se réapproprier son énergie, sa vitalité. Et en même temps, il y a un aspect que moi j'aime beaucoup, beaucoup utiliser, c'est cette force spirituelle en lien avec l'âme qui remet le cheminement sur quelque chose qui n'est pas rentré encore complètement dans le champ populaire, dans le langage populaire, c'est la destinée spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette incarnation-là, dans cette vie-là, dans cette région-là? C'est-à-dire, quelle est une force intérieure qui me met en contact avec une sorte d'instinct, d'intuition, qui fait que je vais parfois avoir un parcours atypique, sortir des rails de la norme professionnelle, norme familiale, norme culturelle en général, pour trouver mon côté atypique. Et moi, j'aime beaucoup aller explorer à travers la souffrance, quels sont les potentiels et les génies, les dons qui animent profondément une âme en souffrance au départ. Donc pour moi, s'il y a deux aspects, il y a l'aspect aller mieux, moins souffrir, parce que je trouve quand même que la souffrance, c'est quelque chose d'insupportable quand on veut vivre de façon épanouie. Et puis le deuxième versant, c'est est-ce qu'il y a un sens plus profond que je n'ai pas encore découvert, comme moi je l'ai découvert par exemple, comme je le racontais tout de suite là, c'est-à-dire je n'ai pas envie de devenir un guérisseur spirituel, je n'y ai même pas pensé, et quelqu'un me met sur une piste de chercheur, de recherche. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'allume en moi, ça ne m'arrange pas trop parce que ça me sort de ma zone de confort. Et en marchant ce chemin qui s'illumine au fur et à mesure, je découvre l'enchantement, le merveilleux et la chance d'être en vie dans notre monde actuel, dans le contexte d'aujourd'hui. Voilà. Il y avait un autre aspect que tu mentionnes, Marie, c'est la roue de médecine. Alors, la roue de médecine, en fait, en Occident, on trouve des roues de médecine dans nos cathédrales sous forme des labyrinthes. Voilà, un labyrinthe, quelque part, c'est une roue de médecine, c'est-à-dire on rentre à la périphérie, on fait tout un cheminement qui fait visiter les quatre orients, les quatre directions, donc l'est, le sud, l'ouest et le nord, pour arriver où ? Arriver en son centre. Qu'est-ce que représente le centre ? Le centre représente qui je suis quand je plonge au creux et au secret dans le mystère de mon âme. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, comme dirait Paolo Coelho, c'est vraiment le mystère de l'âme, le secret de l'âme. Dieu se trouve quelque part à cet endroit-là. Alors, voilà. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et la roue de médecine permet de se découvrir comme si on desserrait les pétales d'une rose où chaque pétale pourrait présenter un parfum un peu différent, une effluve particulière, et toucher l'âme, enchanter l'âme, et la mettre sur le rayon, le chemin de sa vie, le chemin qui enchante sa vie. Qu'est-ce qu'on est individuellement venu faire ici ?
Alors effectivement, tu parles beaucoup de l'âme. Qu'est-ce que c'est, selon toi, l'âme ? Est-ce que finalement, quand notre corps est souffrant, c'est finalement une souffrance de notre âme ? Voilà, qu'est-ce qu'il est nécessaire de comprendre à travers les traumatismes qu'on traverse ou les épreuves qu'on vit ? Voilà, c'est un message de l'âme ? Est-ce que c'est finalement ce mystère un peu impalpable qu'on a en nous ? Comment finalement y répondre et trouver des moyens d'être en soin avec cette âme en vivance, quoi.
Merci de votre question, Marie. C'est une très bonne question qui ouvre à tellement de sujets et d'explications. Alors, l'âme, c'est quelque chose d'impalpable, qui ne se mesure pas, qui ne se pèse pas, qui échappe à tous nos instruments, notre instrumentation de science. J'ai envie de dire, l'âme, c'est ce qui anime profondément notre désir de vivre. Quand l'âme est brisée, quelque part, la personne se retrouve très pragmatiquement dans une forme de dépression, et souvent une dépression qui échappe à toute thérapie. En psychothérapie, psychanalyse, développement, il y a quelque chose qui est brisé à l'intérieur. Dans ma famille, on avait une expression étonnante, on disait, voilà, je vais bien, mais j'ai un ressort qui est cassé. Voilà. L'âme permet de s'animer avec ressort, avec envie, avec pertinence et avec audace. Voilà, il y a un courage. Quand l'âme est rentrée dans une souffrance, il y a vraiment quelque chose qui s'affaisse profondément. Et là, tu as posé beaucoup de questions et beaucoup de sujets, donc ça m'échappe un peu. Ce que je pourrais dire, c'est que à travers l'âme, souvent, on expérimente l'âme à travers la souffrance. Cette souffrance innommable, une souffrance où on sent qu'on souffre au-delà du descriptible. Et même avec finesse, on ne peut pas le nommer. Mais par contre, quand on récupère la puissance de l'âme ou que l'âme remonte en puissance, il y a quelque chose qui donne envie de croquer la vie. Croquer la vie, pas pour caresser l'ego, pour faire des choses improbables et rentrer dans une forme de toute puissance. Non, à l'inverse, quelque chose qui ouvre au désir de transformer la souffrance chez soi et la souffrance chez l'autre ou dans le monde. Voilà. Donc souvent, quand l'âme va bien, il y a quelque chose qui a envie de se mettre au service pour accompagner les âmes en peine, les âmes errantes. Voilà, tout cet aspect-là. Donc pareil, la question est très très ouverte.
Alors peut-être pour justement resserrer, c'est finalement quels sont les traumatismes qu'on peut rencontrer quand on a un traumatisme, quand on a une difficulté. Ces traumas, ça peut être psychologique, spirituel, physique, émotionnel. Et finalement, comment y répondre à ça?
Je vais prendre un exemple qui peut éventuellement donner une coloration. Voilà. Imaginons, je roule à bicyclette à Montpellier et je me fais renverser par une voiture. Donc j'ai une fracture ouverte, donc ça nécessite chirurgie, soins, voilà, j'ai cassé le fémur. Donc quelque chose quand même qui a été très violent et très pragmatique dont la chair est atteinte. Donc en fait, il y a réparation physique, ensuite il faut que je reprenne la confiance dans ma jambe cassée. Et puis ensuite, je vais avoir toute cette phase de rééducation, de ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort, pour être capable de faire du vélo, de courir, de rebondir, voilà, de jouer, de sauter à la corde ou de faire de l'escalade, etc. Et puis, il y a un autre endroit. Par exemple, je peux devenir phobique de la ville, phobique de la circulation, phobique du vélo. Et à ce moment-là, on rentre dans un champ d'exploration et de réparation où là, les outils vont devenir moins évidents. Alors, il y a le MDR qui est connu, on peut travailler en hypnose, qui, pour lever un petit peu la contrainte du trauma, où par exemple, j'ai pu avoir très peur de mourir, parce que non seulement je me suis fait renverser par une voiture, mais il y a une autre voiture qui a failli me rouler dessus et donc m'écrabouiller complètement. Et donc, en fait, l'âme, elle se glisse par là, dans cet endroit un petit peu moins palpable, où en fait, la grande peur de mourir prend le dessus. Il y a quelque chose qui impacte l'âme dans une grande peur de mourir. Et dans les traditions chamaniques ancestrales, l'atteinte de l'âme est signifiée quand il y a une peur de mourir. Donc on voit tout de suite qu'il y a différents exemples qui viennent tout de suite à l'esprit. Par exemple, une naissance difficile peut amener beaucoup de pertes d'énergie où l'âme est impactée, donc naissance difficile, tous les accidents de la vie courante, toutes les violences, les opérations où il y a un diagnostic médical compliqué. En fait, dès qu'on rentre dans une peur très humaine, peur de mourir, quelque chose dans l'âme vacille à minima, voire est percuté et perd de sa vitalité. L'importance de perdre la vitalité pour l'âme, c'est que à ce moment-là, la vie devient raisonnable. C'est-à-dire que si j'ai peur de monter à vélo, si j'ai peur de me confronter à la ville, d'un seul coup, ma vie se rétrécit, mon champ d'action se rétrécit. Et des fois, ça peut tellement se rétrécir que d'un seul coup, ça plonge dans la dépression, dans quelque chose où le vivant qui m'anime n'a plus envie de sortir de quelque chose. C'est comme si l'escargot rentrait dans sa coquille. Voilà. Ça, c'est une très forte blessure de l'âme. Donc tout le challenge, quand on travaille sur ce qu'on appelle la récupération d'âme, en fait, c'est de redonner envie à l'escargot de sortir de sa coquille pour reprendre un mouvement dans sa vie, dans une vie engagée, qui prend des risques, mais des risques mesurés.
Donc ça s'associe aussi à toutes les peurs, en fait, toutes les formes de peur qu'on peut vivre. Et donc c'est de retrouver en soi cet élan de vie à travers finalement la récupération d'âme ou le tambour. Voilà, qu'est-ce que c'est finalement la récupération d'âme, même si tu l'as expliqué. C'est une tradition avec où on écoute le tambour et on rentre dans une conscience modifiée. C'est une approche thérapeute, chamane, si on peut l'appeler comme ça, qui donne une autre présence que finalement un médecin classique.
Ça demande un petit peu d'histoire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil récupération d'âme, dans toutes les traditions que j'ai eu l'opportunité de croiser, la récupération d'âme existe dans les différentes traditions chamaniques que j'ai pu croiser. Alors, j'ai pas fait le tour, évidemment, dans le monde. Ce serait trop large. Mais par contre, partout, on retrouve cette idée que dans une blessure où la peur de mourir, et c'est quand même une des peurs, entre peur de la folie et peur de mourir, on est quand même sur des peurs qui sont très profondément ancrées dans la nature humaine. On retrouve cet outil, cette approche de la récupération d'âme. Donc dans toutes les traditions, évidemment, c'est du présentiel, donc ça ne se fait pas par Internet, par téléphone, avec nos outils d'aujourd'hui. C'est toujours une intervention du guérisseur, on va dire, du medicine man. Medicine man, medicine woman, hein, il y a hommes et femmes, évidemment. Et en fait, il va rentrer par la puissance de son âme de guérisseur, en contact, dans une forme de dialogue intérieur avec l'âme de la personne qui a vécu un événement traumatique. Et il y a différentes façons de faire. Alors, il y a des façons où le chaman y rentre en transe. Donc, il y a différentes façons de rentrer en transe. Donc, une qui est très pratiquée ici, maintenant, en Europe, c'est le tambour chamanique. Donc, la transe avec un son répétitif qui favorise l'habileté pour le chaman à rentrer dans une forme de transe. Et dans cette transe, j'ai envie de dire de rentrer avec des signaux d'information vibratoires les plus fines possibles. C'est-à-dire que dans notre vie simple au quotidien, c'est comme si on vivait avec des vibrations grossières. Hein, donc je vois, j'entends, j'ai le goût, j'ai les sensations tactiles. Et en fait, le chaman, lui, a la particularité, dans un état de conscience modifié, d'élargir la palette de ses perceptions. Et dans la finesse de ses perceptions, en syntonisant la fréquence de son âme à lui, de rentrer en dialogue avec la finesse de vibration de l'âme du patient ou de la patiente. Et c'est un peu cette communication d'âme à âme, de vibration à vibration, qui font que le métier, le savoir-faire du chaman peut s'exercer pour petit à petit ramener une forme de vibration pure. C'est des mots, hein, tout ça évidemment, mais une pureté dans la vibration du patient ou de la patiente, afin que celui-ci retrouve une vibration d'âme autonome et entière par rapport à ce qu'il est. Voilà. C'est vraiment la récupération d'âme, c'est vraiment ça, c'est permettre à la personne de retrouver son état d'avant, voire un peu plus de potentiel.
Et alors, quel lien est-ce que tu fais entre l'âme et l'ego ?
Oh là là, l'âme et l'ego. L'ego.
Florent Dechose, kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur et guérisseur.
Alors je souris parce que je suis en train d'écrire un troisième livre là, et donc ça sera, il y a un gros chapitre sur l'ego, et donc comme je suis très habité par ce que je suis en train d'écrire, je vais essayer de dire quelque chose d'assez simple. La fonction de l'âme s'imprime dans la matérialité du corps physique pour pouvoir œuvrer dans le monde horizontal en ayant une relation avec le sacré, avec l'invisible, avec le monde des rêves. Je nommais tout à l'heure que les rêves étaient une pratique chamanique à part entière. L'ego, lui, je vais exagérer, mais c'est le frimeur en soi. C'est celui qui porte des masques, qui s'adapte, qui veut bien faire, qui veut séduire. Enfin voilà, il y a différentes formes d'ego. Donc il y a un ego qui tire vers le haut, donc qui veut mettre en avant la personnalité. Et puis il y a un ego qui tire vers le bas. Et là, l'objectif, c'est de maintenir la personne dans la souffrance, si possible dans l'addiction, si possible dans une forme de souffrance, mais une souffrance, la souffrance de la matière, la souffrance de l'hormone, quoi, voilà. Donc je dirais que l'âme renvoie à la vibration spirituelle de la nature humaine, et l'ego fait vibrer l'hormone, donc avec de plein de manières, voilà. En général, l'ego n'aime pas rentrer en contact avec la fréquence spirituelle de la personne. Voilà. Donc on n'est pas dans un cours de théologie, mais quand même, on s'approche de quelque chose où l'excès de matérialité, ou la grande insuffisance de matérialité, en fait, ça peut être un jeu de l'ego très, très subtil et très fin. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'ego est à tous les étages, y compris ce qu'on appelle l'ego spirituel, donc des gens qui ont vécu, par exemple, des expériences d'éveil, d'extase, et qui disent « Oh, bah, ça y est, moi, c'est fait, je suis un être éveillé, c'est magnifique, oui, oui, oui. » Mais non, en fait, pas du tout. L'évolution spirituelle n'attend pas l'éveil pour continuer au-delà de ce qu'on appellerait l'éveil. C'est-à-dire que la conscience a une grande marge d'évolution bien au-delà, et que l'ego, lui, il n'a qu'un objectif, c'est maintenir l'humain dans une forme de bestialité assujetti à la matérialité, aux addictions, à l'argent, voilà, ou alors à l'inverse, à la procrastination. Enfin, c'est vraiment ces endroits-là. Voilà. Je ne sais pas si je réponds assez bien à ta question, mais ce sujet est tout à fait passionnant.
Dans la continuité, on peut parler aussi d'ego spirituel. On parle souvent aussi dans tous ces types de médecine qu'il y a parfois des gourous et que ça peut faire peur d'aller faire du chamanisme ou d'aller à la rencontre de stages, de formation, d'ateliers où il y a des gourous. Voilà, comment identifier un gourou qui a un ego fort spirituel, et comment identifier plutôt quelque chose d'ajusté où on est vraiment dans un travail sur soi et dans un travail où la personne est au service de l'autre pour vraiment qu'on trouve, et je vais revenir à ma première question, notre propre guérison intérieure en fait.
Pareil, là aussi, on rentre vraiment dans le sujet de la relation humaine au-delà du chamanisme, c'est-à-dire comment, en tant qu'individu, je peux rester dans mon plein pouvoir de décision, ma pleine liberté. En introduction, quand j'interviens à l'Institut, par exemple, j'ai toujours le chamanisme, c'est une école double. C'est l'école de la liberté. Apprendre à être libre, c'est extrêmement compliqué. Et c'est l'école d'apprendre à mourir, c'est-à-dire être en paix avec ce temps qui nous est offert durant l'incarnation, et être en paix pour au moment où le corps se dépose, il y a autre chose qui émane, mais c'est vraiment ce double objectif, devenir qui je suis en gagnant en liberté, donc qui je suis spirituellement, pas qui je suis au niveau de l'ego, parce que l'ego se cache derrière des métiers, derrière des blouses blanches, derrière des écrans, voilà, et de réussir à être en paix avec les endroits les plus en souffrance, les endroits où il y a les plus grandes questions existentielles. Donc ça, c'est important. Ensuite, par rapport au choix de la personne, donc ça pose la grande question d'être sous emprise. Et c'est vrai que souvent, on a tous des mentors, on a tous des gens qui nous inspirent dans notre vie. Et moi, je suis très attentif, par exemple, pour moi, je dis toujours que j'ai choisi mes enseignants intuitivement. C'est-à-dire que je choisissais la matière, le sujet que je voulais étudier pour être enseigné, et en même temps, intuitivement, je me disais, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais être regardé comme un égal dans le sens humainement ? C'est-à-dire quelqu'un qui ne me prenne pas de haut, qui rentre dans ma fragilité, qui m'aide à me décortiquer dans mes ombres, dans mes souffrances, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas forcément accessibles pour moi-même, mais quelqu'un qui, tout en douceur et en bienveillance, m'accompagne sur le chemin de ma découverte et de ma révélation, que je me révèle à moi-même. Et j'ai toujours fui les gens que je voyais maltraitants ou qui aurait pu avoir une forme d'emprise, voilà. Et moi, je suis extrêmement vigilante dans mes transmissions à laisser toujours l'autre libre de prendre un autre chemin. Même souvent, j'encourage à aller visiter d'autres chemins en fonction de ce que je repère chez la personne, en disant « va explorer cet endroit-là, tu pourras apprendre beaucoup de choses » et tout ça, pour vraiment surveiller une forme d'emprise et qui peut amener de la fascination. Alors c'est vrai que souvent, au départ, quand on rencontre quelqu'un, y a un transfert positif, donc on est un peu fasciné, impressionné de tout ce que la personne connaît, donc c'est très bon et c'est très nécessaire. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose d'égal. Voilà. On regarde l'autre comme un égal. Après, on a des connaissances particulières, donc on facilite l'accès à la connaissance, mais d'égal à égal. Voilà. Moi, je suis très, très attentif à ça, y compris quand on cherche un enseignant, ou y compris, moi, dans ma posture, en tant qu'enseignant, je suis extrêmement vigilant à garder cette simplicité, y compris à la maison, dans ma vie. Enfin, voilà, je fais très, très attention à cela.
Donc c'est d'avoir de l'humilité, en tout cas, par rapport à celles et ceux qui reçoivent tes enseignements. La question que je me posais, c'est quel est ton objectif en tant qu'enseignant ? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre à travers tous ces stages que tu fais, à travers ces formations ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé du chamanisme, mais tu as aussi d'autres cordes à ton arc, comme je disais au début. Il y a les soins esséniens aussi, peut-être que tu pourras en parler. Quels sont les enjeux pour toi et qu'est-ce que tu cherches à transmettre ?
En fait, je m'aperçois au fil des années qu'il y a quelque chose qui se resserre en moi, c'est-à-dire que, évidemment, des gens qui ont des compétences de guérisseur à travers ce que je transmets, alors plus en essénien, j'ai envie de dire, donc augmenter sa force intérieure, sa force de magnétisme, donc il y a des pratiques pour augmenter sa force, sa puissance, je dis toujours, sa force de magnétisme, c'est comme si on augmentait la puissance d'un aimant, voilà. Et après, il y a un art, l'art du soin pour amener de la transformation des souffrances chez l'autre. Donc ça, voilà, ça s'apprend. Et pendant très longtemps, en fait, j'étais un petit peu sur cet aspect-là. Et puis, ces dernières années, je m'aperçois, en fait, qu'il y a un autre endroit qui s'est fait un petit peu malgré moi. Moi, je dis maintenant que je suis un éveilleur de conscience. Donc, et c'est compliqué de parler de conscience. C'est-à-dire, être conscient, c'est être capable de regarder toute situation, tout événement, avec ce qu'on appellerait en chamanisme la vision de l'ex, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur une situation. Voilà. C'est comme si y a deux enfants qui se chamaillent dans la cour de récréation pour des billes. Si je me mets au niveau de l'enfant, en fait, bientôt on va être trois à se chamailler pour les billes. Si la posture de l'adulte arrive à être au-dessus, de prendre une forme de perspective, il a une conscience différente et à ce moment-là, il peut amener une résolution très agréable dans un conflit pour des billes au niveau des enfants. Et en fait, quelque part, le chemin que je suis et que j'évolue au fil du temps, c'est de faciliter dans des thématiques profondes que les participants traversent ou sont en difficulté, de faciliter pour eux-mêmes un regard qui prend de la hauteur pour que, en prenant de la hauteur, ils prennent du recul, comme l'expression très, très contemporaine, la nuit porte conseil. C'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en prenant de la hauteur, en prenant de la perspective, je vois ma vie, je vois une situation difficile, je vois un conflit d'une autre manière. Donc, élever le débat. Moi, j'aime beaucoup regarder et élever le débat. Bon, et après, dans les pratiques esséniennes, c'est vrai qu'on va très très loin dans les vibrations les plus fines. Donc on parlerait de médecine quantique, hein. Aujourd'hui c'est un petit peu à la mode, mais bon, c'est un mot qui est pas plus mauvais que ça. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire quoi? C'est montrer la relativité de l'espace, du temps, y compris des souffrances, et que ça donne des perspectives d'évolution plus altruistes, plus attentives, qui respectent le vivant. Et c'est très important de voir qu'aujourd'hui, par exemple, on a été confronté depuis les années Covid à quelque chose où beaucoup de gens ont pris conscience que le vivant était moins respecté, voire moins respectable. Et dans notre politique géopolitique internationale, on voit quelque chose qui part un petit peu d'une certaine façon sur un autre volet. Et donc, il y a eu toute une frange de population qui a élevé, qui s'est réveillé d'un niveau de conscience, et ça s'est fait naturellement par les événements de sanitaires qui nous ont été imposés à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a une conscience qui se dégage en lien avec des expériences très difficiles. Et souvent, le sens du traumatisme, c'est de nous... Soit ça nous effondre complètement, soit ça crée un sursaut qui amène une élévation de regard sur un événement particulier dans sa vie ou sur sa santé. Voilà. Et donc, la conscience, c'est ça, c'est comment petit à petit, il y a un regard sur la vie, sur les événements, sur son chemin de vie avec l'âge, les étapes de sa vie, où petit à petit, on prend de la hauteur et où, en fait, on se décale par rapport à des zones en cours de maturation qui rentrent en conflit les unes avec les autres. Voilà. C'est-à-dire la guerre. Intérieurement, individuellement, on vit de la guerre qu'on retrouve en géopolitique internationale. Mais déjà, la conscience permet d'apaiser les guerres à l'intérieur de soi. Voilà. Je le dirais comme ça, très simplement.
Peut-être revenir sur les pratiques esséniennes. Voilà. Quelles sont les origines de ces pratiques? Parce qu'on peut trouver aussi des liens avec la religion, alors que la façon dont tu pratiques ces soins esséniens, c'est comme tu disais, c'est plus du renforcement, du magnétisme intérieur. Alors peut-être parler de ça. Et puis, voilà, les pratiques que tu exerces, quelque part, ça te permet d'élever ta conscience et d'élever le débat. Donc, quelque part, ça veut dire qu'on a tous intérêt à être, voilà, de prendre de la hauteur dès qu'il y a de l'émotion forte, dès qu'il y a une guerre intérieure, comme tu disais, guerre intérieure, guerre extérieure, et comment justement faire face un petit peu à tout ça.
Au niveau historique, le mot essénien, en fait, on retrouve dans les écrits romains au Moyen-Orient, donc dans la période, on va dire, autour de l'an zéro, des descriptions d'une... Alors, à l'époque, ils appelaient ça, dans les mots qu'ils utilisaient, c'était une secte. Alors, c'est pas du tout le mot secte au sens négatif comme on l'utilise aujourd'hui. En fait, c'était une branche dissidente du judaïsme qui avait des pratiques paysannes qui sont assez bien décrites dans les textes romains de l'époque. On voyait leur style de vie, ils étaient extrêmement simples, ils étaient vraiment très simplement, ils vivaient très simplement, mais ils avaient fait un peu dissidence par rapport à la branche de la judéité de l'époque. Et avant ces périodes-là, on n'a pas de texte qui parle de ça. Donc après, on retrouve beaucoup de gens qui canalisent, qui disent, voilà, ça se passait comme ceci, comme cela, ça venait de là, etc. Donc en fait, concrètement, on ne sait pas d'où ça vient. Mais une chose est sûre, j'ai eu l'opportunité d'aborder assez intimement la religion du bouddhisme balinais, de l'hindouisme balinais et du bouddhisme tibétain. Et en fait, je me suis aperçu qu'en pratiquant, sans rentrer l'étude religieuse profonde, mais de pratiquer avec des enseignants avancés, en fait, j'ai vu qu'on avait des accès communes. Et donc, ces accès communs montrent qu'il y a une espèce d'universalité dans les hautes fréquences spirituelles et que les religions auraient en fondation quelque chose qui viennent, on va dire, du ciel, du mystère céleste et terrestre, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais en tous les cas, moi, dans mes pratiques esséniennes, chez moi, en tous les cas, c'est en dehors de toute religion, de toute église, parce que moi, je m'adresse à l'universalité de la lumière. Voilà. La lumière, le soleil brille pour tout le monde, et moi, je suis plutôt à cet endroit-là. Voilà. Il y a des courants chez les Esséniens actuellement qui ont essayé de faire des églises, notamment au Québec, à Montréal. Je ne sais pas où ça en est. Enfin, moi, ce n'est pas du tout ma vision à cet endroit-là. Mais par contre, l'étude des textes sacrés est extrêmement riche parce que la sagesse contenue dans ces gestes, dans ces textes, pardon, est une sagesse qu'on retrouve dans la finesse des perceptions quand on est en pratique essénienne ou dans les hautes fréquences.
Donc c'est une forme de pratique où, voilà, c'est une forme de méditation qui permet d'apporter des soins.
Il faut bien distinguer la pratique essénienne qui est effectivement une sorte de musculation spirituelle. Donc on fait appel à des vibrations, donc c'est là qu'il y a l'aspect vibratoire qui rentre en jeu. C'est comme si on cherchait petit à petit à faire vibrer la matière corps de façon, corps physique, la matière corps physique de plus finement, avec des vibrations plus vides, en se mettant en contact avec le vide, avec l'intuition, avec des choses très fines, et que de là vient une forme de conscience, d'omniscience qui peut permettre effectivement derrière de faire des soins ou d'affiner sa finesse de soins. Donc il y en a certains qui ont créé une branche de soins esséniens, donc où ils ont mis des protocoles esséniens, tout ça que voilà que j'ai pu regarder un petit peu plus près par moment. Mais en fait, la finesse de perception quand on est en haute fréquence comme ça, j'ai envie de dire, quel que soit son métier d'accompagnement, ça donne une grille de lecture, une forme de lecture par transparence qui est très très intéressante, que l'on soit médecin, psychologue ou masseur ou autre. Il y a vraiment une finesse, un ajustement qui se présente de façon très, très intuitive quand on fait ces pratiques-là.
Quelles sont les personnes qui viennent à tes stages, à tes ateliers, à tes formations ?
Là aussi, la question est super large. En fait, j'ai envie de dire, alors on a des mondes, des univers de société très différentes. Je vais donner des exemples, ça peut aller d'un réalisateur de cinéma à une bergère, à une juriste, à un banquier, voilà, donc des enseignants. Donc c'est des mondes extrêmement professionnels, très différents. Mais globalement, le trait commun, ce sont des gens qui sont en quête de sens. C'est-à-dire, ils ont un sens premier dans leur vie. C'est souvent des gens qui fonctionnent dans leur vie déjà de façon stable et équilibrée pour la plupart. Et puis, qui dans leur vie, arrivent à des étapes de vie, des étapes de croissance intérieure, où ils se disent, bon, maintenant que ma vie fonctionne, qu'est-ce qui se passe dessous ? En dessous, qu'est-ce que c'est qui m'anime ? Et souvent, il y a une espèce d'intuition qu'à autre chose. Voilà. Et c'est cette autre chose souvent qui amène les gens vers nous. Et aussi des gens qui sont en recherche de compréhension ou tout simplement en souffrance. Hein. Quand on travaille sur l'âme, évidemment, sur la perte gémellaire intra-utérine, donc c'est des traumatismes un peu sévères, voire très très sévères, où les gens ils veulent aller mieux. Hein. Donc voilà, c'est principalement ça qui me vient là dans l'immédiat. Et puis, ouais, c'est essentiellement ça, je dirais, dans le type de gens qui viennent. Voilà, des chercheurs, en fait.
Et pour finir, je reviens à ma question très large, peut-être où tu pourras donner quelques clés, en tout cas à celles et ceux qui nous écoutent, sur les voies, les différentes voies qu'on peut trouver intérieurement pour la guérison, en fait. Enfin, comment arriver à sa propre guérison à travers peut-être voilà, différentes pratiques que toi, tu enseignes et tu partages.
Alors, c'est vraiment la thématique de la guérison. Qu'est-ce que c'est que la guérison ? Alors, évidemment, si on a la grippe, on a envie de guérir de la grippe. Si je me suis cassé le fémur, j'ai envie de guérir de la fracture du fémur et de retrouver toute ma fonctionnalité. Donc, on voit que la guérison, il y a des endroits très pragmatiques. Et moi, j'élargis la guérison qu'est-ce que je comprends de moi intimement grâce à un traumatisme, grâce à une souffrance. Comme si la souffrance qui se présente dans ma vie était une porte qui me donne accès à un autre plan de conscience. Donc on rentre dans des décodages biologiques, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la guérison, moi je ne la vois pas comme la guérison absolue et ultime, je le vois plutôt la guérison comme une opportunité de passage pour avoir un regard, j'ai envie de dire, plus entier sur son processus de vie, sur son évolution. Toujours pareil, évolution de conscience. Pour moi, on guérit quand on évolue en conscience. Et la question, parce que derrière vient la question de la mort, dans ma fin de vie, imaginons que je vieillisse jusqu'à 95 ans, à 95 ans, je vais mourir. Est-ce que je meurs guéri ou est-ce que je meurs en paix, malade, voilà. Et donc, donc je reformulerai autrement, pour moi, mourir, c'est est-ce que j'arrive au seuil de la mort en ayant acquis le plus d'opportunités d'acquérir de la conscience et d'être allé le plus loin possible. Et la suite est un mystère.
Merci Florent Dechose.
Merci Marie, au plaisir.
Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloume.